Le livre biblique de l'Apocalypse nous dit qu'il viendra un temps dans l'avenir où chacun sera obligé de recevoir une marque sur son front ou sur sa main. Sans cette marque, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Mais la colère de Dieu sera déversée sur ceux qui l'accepteront. Quelle est cette marque? Le savez-vous? Nombreux sont ceux qui cherchent à comprendre cette mystérieuse marque de la bête. Les spéculations abondent. Certains ont pensé que le code barre et plus récemment le code QR représentaient cette marque. D'autres s'attendent à ce que le nombre 666 soit tatoué, voire que des puces informatiques soient implantées dans la main ou sur le front. Et comment oublier le vaccin du Covid-19? Aucun de ces exemples ne constitue la marque de la bête. Dans l'émission d'aujourd'hui, au monde de demain, j'expliquerai à partir des pages de la Bible la signification de cette marque mystérieuse. Je reviens d'ici 5 secondes pour vous montrer ce que la Bible révèle au sujet de la mystérieuse marque de la bête. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à tous ici au monde de demain, où je partage avec vous ce que la Bible dit au sujet de la mystérieuse marque de la bête. L'origine du sujet d'une marque qui détermine si quelqu'un peut acheter ou vendre découle du livre biblique de l'Apocalypse. C'est donc la Bible elle-même qui doit nous éclairer sur sa signification. Voici le passage en question. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, avant de partir à la recherche de cette marque, attardons-nous pour considérer le point le plus évident et le plus fondamental pour comprendre cette marque. À savoir, la marque est celle de la bête. Il s'agit de la marque de la bête. Ainsi, toute marque qui ne proviendrait pas de la bête ne peut être sa marque. Bien qu'il soit courant de spéculer sur les codes-barres, les numéros de sécurité sociale, les tatouages et les puces électroniques, nous devons d'abord nous attacher à identifier quelle est l'identité de cette bête si nous voulons comprendre sa marque. Quelle est donc l'identité de cette bête? La recherche commence dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Nous y lisons que Dieu révéla au prophète Daniel la signification du songe du roi Nebuchadnezzar. Commençons par Daniel chapitre 2 et au verset 31. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous vous dites peut-être en ce moment, comment le songe d'un roi d'il y a 2500 ans de cela peut-il me concerner? Ne s'agit-il pas simplement d'une histoire d'enfant à dormir debout? Cette pensée est tout à fait inexacte. Daniel expliqua au roi que cette statue représentait quatre royaumes. L'histoire montre que la tête d'or correspondait à l'empire chaldéen de Nebuchadnezzar. Les trois empires suivants furent l'empire médo-perse, l'empire gréco-macédonien et l'empire romain. La prophétie de Daniel couvre les siècles allant de Nebuchadnezzar jusqu'au retour du Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il établira son royaume sur cette terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Les historiens s'accordent à dire que le quatrième royaume, l'Empire romain, prit fin en 476 après Jésus-Christ. Le Christ n'est pas revenu depuis et n'a pas établi un royaume mondial à cette époque-là. Cette prophétie a-t-elle échoué? Ou y a-t-il bien plus que cela? Passons maintenant à Daniel, chapitre 7, qui décrit davantage ces quatre empires mondiaux. Cette fois, au lieu de la représentation d'une statue faite de différents matériaux, nous retrouvons ces mêmes empires représentés par des animaux sauvages. Le premier ressemblait à un lion aux ailes d'aigle, le deuxième à un ours, le troisième à un léopard à quatre têtes, et le quatrième était comme nous le voyons dans Daniel 7, au verset 7, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Les versets 17 et 23 montrent clairement que les termes roi et royaume sont utilisés de manière interchangeable. Et comme décrit au chapitre 2, le quatrième royaume prendra fin lorsque le Christ reviendra instaurer son royaume. Lisons-le dans Daniel chapitre 7, au verset 26 et 27. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Il est inutile de spéculer sur l'identité de ces animaux, car la Bible interprète ses propres symboles. La statue du songe de Nebuchadnezzar représentait 4 royaumes, en commençant par le sien et se terminant par l'instauration du royaume de Dieu ici-bas. Les 4 animaux dans Daniel 7 représentent des rois ou des royaumes, dont le 4e prendra fin juste avant l'établissement du royaume de Dieu. Ces 4 animaux représentent clairement les mêmes royaumes que ceux mentionnés dans Daniel chapitre 2. La pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main est clairement une référence au Messie qui reviendra établir un royaume éternel. À ce moment-là, il détruira les empires humains en frappant les pieds de cette grande statue. Par conséquent, les pieds et les orteils constituent assurément la partie de la statue qui existera au retour du Christ. Remarquez l'explication des pieds et des orteils inspirée par Dieu dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Tel sera l'état de la dernière résurgence de l'Empire romain à la fin des temps. Comme nous le verrons, il y aura 10 nations qui ne seront pas unies les unes aux autres. Mais elles s'uniront pour un temps très court, par nécessité, et elles auront la force du fer. Mais comment est-ce possible, puisque Rome, le 4e empire, est tombé il y a plus de 1500 ans? La réponse se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au 13e chapitre. Nous y trouvons une autre bête. Elle présente les mêmes caractéristiques que celle de Daniel au chapitre 7. Et ces caractéristiques sont combinées en une seule créature. Pourquoi? Parce que Jean rapporta les visions qui lui furent données à la fin du 1er siècle de notre ère, à l'époque de l'Empire romain qui avait absorbé les 3 premiers royaumes. Remarquez cette description. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Mais là encore, Rome est tombée il y a plus de 1500 ans. Comment pourrait-elle donc exister lors du retour du Christ? Notez que cette bête a 7 têtes. Comparez cela avec Daniel chapitre 7 et vous verrez que les 4 animaux réunis possèdent le même nombre de têtes. Apocalypse 13 versets 3 et 5 explique qu'une des têtes reçut une blessure mortelle qui fut guérie. Les 3 premiers animaux ayant été absorbés par Rome, faisant de la bête d'Apocalypse 13 la combinaison des 4 animaux de Daniel 7, la seule tête qui aurait pu être guérie est celle de Rome et c'est exactement ce que nous trouvons dans l'histoire. L'Empire romain s'effondra en 476 après Jésus-Christ, mais il fut restauré, ou guéri, par Justinien en 554 après Jésus-Christ. Pour comprendre ce qui arriva ensuite, nous devons nous reporter à Apocalypse 17 où la guérison de l'Empire romain se poursuit. Nous y trouvons une autre bête à 7 têtes, mais il y a une différence importante. Elle ne représente Rome qu'après sa guérison, avec une différence très significative. Il s'agit d'une Rome chevauchée par une femme déchue. Commencez au verset 1. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. » Dans la Bible, la femme est parfois utilisée comme symbole d'une église. Au sujet du mariage entre un homme et une femme, nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 32. « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, « Ceux qui seront sauvés sont décrits comme l'épouse du Christ. » Mais dans Apocalypse 17, nous voyons une femme déchue, une église apostate, une église mère avec des filles prostituées. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Sur son front était écrit un nom, un mystère, « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Cet empire romain, dont la blessure mortelle a été guérie en 554 après Jésus-Christ, comporte 7 têtes et est dirigé par une église apostate. Nous apprenons aussi qu'il perdurera pendant 42 mois. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. En prenant en compte qu'un mois prophétique biblique dure 30 jours, 30 jours multipliés par 42 mois donnent 1260 jours. Notez que l'Écriture utilise couramment le principe d'un jour pour une année. Cette bête continuerait après sa guérison pour une période de 1260 jours, soit de 1260 ans. Le contexte et l'histoire nous montrent qu'il s'agit de 1260 ans dans ce cas. L'histoire nous apprend que l'Empire romain, désormais dirigé par une église apostate, fut restauré par Justinien en l'an 554 de notre ère. Cet empire déclina, mais fut rétabli à 4 reprises. La deuxième résurgence eut lieu en l'an 800. Le jour de Noël, comme Charlemagne était agenouillé en prière devant l'autel de Saint-Pierre, le pape Léon exhiba tout à coup une couronne sertie de bijoux et la posa sur la tête du roi. Après Charlemagne, l'Empire se détériora à nouveau, mais fut ravivé une troisième fois sous Othon Ier, dit le Grand. Comme Charlemagne, Othon reçut son trône grâce à la déclaration papale selon laquelle l'Église romaine catholique avait été le seul électeur impérial depuis le début du IVe siècle. Ainsi, le Saint-Empire romain était dans une large mesure allemand dans sa base ethnique et politique, chrétien dans sa justification morale et romain dans sa prétention à la légitimité et à l'universalité. Les empires dirigés par Charles Quint et Napoléon représentent respectivement la 4e et la 5e résurgence. De la guérison sous Justinien en 554 à la chute de Napoléon en 1814, nous avons, écoutez bien ceci, exactement 1260 ans, comme prédit dans Apocalypse chapitre 13 et les versets 3 et 5. Apocalypse 17 nous dit qu'il y aurait encore 2 résurgences après les 5 qui ont eu lieu lors des 1260 ans. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome est bâtie sur 7 collines. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, les résurgences de l'Empire entre 554 et 1814 après Jésus-Christ. 1 existe, les puissances de l'Axe sous Hitler et Mussolini. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La dernière résurgence sera composée de 10 rois ou nations hétérogènes ayant la force du fer et la fragilité de l'argile. Cela se produira dans un avenir proche et lorsque cela se produira, rappelez-vous que vous en aurez déjà entendu parler. Dieu n'approuve pas ceux qui prennent la marque de la bête. C'est un signe de désobéissance. Il ne peut s'agir simplement d'une puce informatique ou d'un code barre. C'est la marque de la bête et cette bête combat le Christ à son retour. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et roi des rois. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Bible parle d'une autre marque. Peu de gens réalisent que Dieu a donné un signe qui identifie son peuple. Lisez-le vous-même dans Exode chapitre 31 et au verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Certains pensent à tort que Jésus a changé le sabbat pour le premier jour de la semaine. Mais la Bible et l'histoire de l'Église originelle montrent que Jésus, les apôtres et l'Église de Dieu du 1er siècle ont continué à observer le jour que Dieu a mis à part lors de la création, bien avant Moïse. Comme nous le lisons dans Genèse chapitre 2 et au verset 3, « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Et Jésus a déclaré à ceux qui tordaient le commandement du sabbat que le sabbat n'a pas été aboli, mais qu'il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pensez-y, on ne peut pas être le seigneur de quelque chose qui a été aboli. Le diable est un grand faussaire. Parlant des faux ministres, Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Daniel 7 parle d'une corne qui avait une plus grande apparence que les autres, c'est-à-dire la femme qui chevauche la bête d'Apocalypse 17. Voici ce que Daniel 7, verset 25, révèle à propos de ce système religieux. « Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. » Remarquez qu'il est dit « espérera changer les temps et la loi. » Ce n'est pas Jésus ni l'apôtre Paul qui ont changé le jour de repos mis à part par Dieu lors de la création. C'est l'empereur romain Constantin qui a remplacé le sabbat par le dimanche. Je cite un extrait du manuel Dernman intitulé « Introduction à l'histoire du christianisme ». Le dimanche chrétien n'est devenu un jour de repos que lorsque Constantin le décréta en l'an 321. Constantin rendait un culte à l'astre solaire. Lorsqu'en 321, Constantin déclara le premier jour de la semaine un jour sacré, il l'appela le jour vénérable du soleil. Mais qu'en est-il de la marque apposée sur la main et sur le front ? Cela ne suggère-t-il pas une sorte de marque visible ou de puce électronique ? Nous ne devons pas lire dans la Bible selon nos propres idées. Nous devons laisser la Bible expliquer ses propres symboles. L'Apocalypse n'est pas le premier à mentionner quelque chose apposé sur la main et sur le front. En fait, ce symbolisme est utilisé comme un signe d'obéissance à Dieu. À propos d'une fête annuelle donnée par Dieu que Jésus et l'Église originelle observèrent, nous lisons dans Exode chapitre 13 et au verset 9. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Après avoir répété les 10 commandements dans Deutéronome 5, nous lisons au chapitre 6. « Tu les liras, les commandements divins, comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. » Tout comme Dieu place son signe sur notre main et notre front, la bête du grand faussaire a sa marque. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez trouvée utile et que vous voulez en savoir plus, assurez-vous d'obtenir votre exemplaire gratuit de notre brochure « La bête de l'Apocalypse ». Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur mondedemain.org. Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. N'oubliez donc pas de vous abonner à notre chaîne afin d'être notifié d'autres vidéos sur des sujets bibliques importants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.